du viol, histoire de la beauté, les trois volumes d'histoire du corps, les métamorphoses du gras, histoire de la virilité ou encore la silhouette, vous multipliez les angles d'approche de votre sujet d'étude. En 2014, vous approfondissez la notion de sentiment de soi.
Au XVIIIe siècle, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau. C'est le sentiment qu'en s'éprouvant physiquement, on existe mieux et on existe plus.
Aujourd'hui, vous prolongez votre réflexion en vous concentrant sur le corps en Occident. Vous décrivez l'évolution des modèles fonctionnels du corps selon l'époque. Corps humoral à l'Antiquité, corps mécanique au XVIe, corps énergétique au XIXe. Mais vous détaillez aussi ce que vous appelez les modèles existentiels qui désignent la façon dont nous donnons du sens à notre corps. Selon vous, nous existons aujourd'hui davantage pour nous-mêmes, quasi charnellement, d'où ce triple mouvement d'affranchissement, d'individualisation et d'intériorisation.
Oui, Georges Vigarello, ce que vous montrez très bien, c'est qu'on est passé d'un corps redressé, dominé de l'extérieur à un corps qu'on éprouve de l'intérieur, un corps qui s'est affranchi et qui ne supporte plus précisément tout ce qui relève de la domination ou de l'emprise.
Mais pour tout vous dire, c'est aussi moi, ma perspective qui a évolué.
Ah.
Et ma perspective qui est plus sensible finalement à la manière dont les choses sont interprétées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Indiscutablement, dans les années 70, la crainte, c'est une sorte de domination, le fait d'être soumis aux contraintes sociales, etc. Aujourd'hui, je trouve qu'on est plus sensible, à juste titre d'ailleurs, à la manière de s'affranchir. Mm-hmm. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est une tentative de faire, sans sortir de grands mots, cette archéologie de l'affranchissement. Parce que c'est une grande histoire, en fait. C'est une histoire qui commence au Moyen-Âge. Là, je dirais le purgatoire, c'est une façon de s'affranchir par rapport au crâne de l'enfer, pour prendre cet exemple-là, ou le fait de libérer les serfs, etc. Et on voit, quand on suit comme ça progressivement la culture de l'Occident, on voit que le corps est au cœur d'une pratique de l'affranchissement.
À quel moment le plaisir corporel apparaît dans les textes? Vous dites que c'est au milieu du 19e siècle, pas avant la notion de plaisir éprouvé par les hommes et par les femmes.
Alors, c'est une question, vous avez raison, c'est une question très importante, parce que ça renvoie à la manière dont on qualifie l'existence, la manière dont on éprouve l'existence. Et c'est sûr que la question du plaisir, qui a été quand même un lieu de grand interdit, nous n'oublions jamais, bon, la question du plaisir, elle émerge, enfin, à mon avis, à la fin du 19e, où on s'autorisait la volupté. La volupté, c'est absolument central. On ne peut pas nous l'interdire, c'est pas possible. Bon, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est rompu. Et on le voit dans des textes comme ceux de Zola ou quelques autres, quelque chose s'est produit. Ne prenons pas de Proust. Proust est quelqu'un qui s'éprouve de manière absolument intense. Et je pense à ce moment-là que c'est peut-être une des données les plus importantes de notre monde contemporain. Mm-hmm. Accepter le plaisir.
Mm-hmm. La perception de la douleur aussi a évolué, vous le dites. Il y avait peu de mots pour en parler, 4 ou 5, et après, ça a augmenté. Aujourd'hui, on en parle avec un vocabulaire beaucoup plus touffu.
Ben, vous avez raison, c'est une superbe question parce que ça renvoie précisément au fait que la question d'éprouver le corps, c'est une question beaucoup plus importante, on le croit. On a toujours le sentiment qu'on l'a toujours éprouvé, que c'est toujours pareil. Or, ce n'est pas pareil. Et c'est en ça que le livre que j'avais fait en 2014, c'est un livre auquel je tiens, sur la sensation de soi. C'est pas pareil. C'est-à-dire que la douleur éprouvée dans les époques anciennes, elle a quelques petits caractères, mais elle est finalement, qualitativement, relativement restreinte. Or, plus vous avancez dans le temps, plus vous trouvez des formes de douleur différentes, plus ça s'approfondit, et plus, disons-le, vous enrichissez votre monde intérieur. Disons-le. À travers la douleur, vous enrichissez votre monde intérieur.
La fatigue a muté, elle s'est métamorphosée. Vous dites, on est passé de la fatigue du laboureur au burn-out.
Oui, absolument. Voilà un autre exemple. Voilà un exemple magnifique où la sensibilité est au cœur.
Ouais.
Les types de fatigue contemporaines sont des types de fatigue qui passent par le psychologique. C'est la relation au micro-ordinateur, c'est la tension, c'est le burn-out. Quelles sont les fatigues anciennes? Elles sont physiques, elles sont essentielles. Et alors, il y a une rupture qui est très intéressante et que l'on oublie et qui montre à quoi, d'ailleurs, travailler sur le corps, c'est en fait aussi travailler sur le social. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? Au moment où la société s'organise, au moment où il y a des systèmes administratifs qui se gèrent, au moment où Louis XIV envoie ses commis à droite et à gauche, qu'est-ce qui se passe? L'administration.
Mm-hmm.
Et donc la fatigue de l'administration. Vous voyez? Et donc ça renvoie quoi?
Ça n'a pas changé.
À une société nouvelle.
Ouais. Georges a voulu décupler ou pousser à l'extrême les capacités sportives.
Alors votre exemple est extrêmement parlant et il est intéressant à plusieurs titres. D'abord, la question de dépassement, c'est en fait une question récente. C'est pas une question traditionnelle. La tradition a peur de l'excès corporel. Elle considère que c'est une façon de détruire le corps. C'est un grand danger, si vous voulez. Au contraire, lorsque commence à apparaître la notion de progrès, le fait que l'on peut aller au-delà de ce qui existe jusque-là, ben oui, vous commencez à avoir une tentative de dépasser ce que le corps faisait jusque-là. Vous commencez à avoir des calculs de temps, vous commencez à avoir des calculs d'espace, et ça, c'est la deuxième moitié du 18e. C'est un monde moderne, vous voyez. Donc la performance, contrairement à ce que l'on croit, c'est une notion relativement récente. Mais votre exemple, il est intéressant à plusieurs titres. Il est intéressant, et ça, c'est plus ou moins, il y a un écho dans mon livre de ça. Il est intéressant parce que l'obsession de la performance est de plus en plus importante, voir le livre d'Ehrenberg, très beau d'ailleurs, hein, L'âge de la performance. L'obsession de la performance est de plus en plus importante, mais en même temps, ce qui est de plus en plus important, c'est le sentiment que le moi peut s'affirmer de plus en plus, jusqu'à la caricature. Et là, nous sommes face à une caricature. Pourquoi ? Parce que cet excès, sanitairement, il est affreusement dangereux.
Oui, pour la personne qui l'opère. Juste une question à propos de... On va faire un débat sur Vladimir Poutine et la guerre, l'agression de l'Ukraine. La vision du corps occidental par Vladimir Poutine, vous en parlez régulièrement, le corps qui incarne la décadence, le corps dévirilisé, c'est notre corps occidental.
Alors, je pense que c'est ce que vous dites, mais c'est en même temps plus compliqué.
Vous dites, hein.
Je crois que ce qui entraîne de la part d'un certain nombre de sociétés, dont évidemment la société russe d'aujourd'hui, enfin du moins les hiérarques russes, ce qu'ils craignent, c'est en fait l'individualisation de l'Occident. C'est le fait que dans ces sociétés occidentales, les individus ont une part de décision qu'ils ont conquise avec le temps. Et ça, l'histoire le montre magnifiquement. Et le fait que les individus aient à leur disposition une plus large marge de décision, ça inquiète totalement les sociétés totalitaires. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles des hommes de pouvoir comme Poutine ont une haine à l'égard de l'Occident, parce que l'Occident les inquiète. L'Occident risque de mettre en cause précisément la façon dont leur pouvoir fonctionne.
Est-ce que vous, homme qui pétille, mais homme de 85 ans, vous envisagez votre propre corps d'une manière qui vous émeut vous-même ou qui vous étonne vous-même, Georges Vigarello, pour finir ?
C'est une question centrale et extrêmement difficile et très difficile de répondre. Moi, je répondrai de deux façons. Lorsque je suis devant vous, je n'ai pas d'âge. J'ai absolument ma sensibilité, j'ai mon travail, j'ai ma passion. Et puis, en fait, de temps en temps, je perçois évidemment que l'âge est là. Mais il y a deux manières, vous voyez, de vivre le corps âgé. Il y a deux manières.
Merci Georges Vigarello. Merci pour cette déclaration à nous tous ici. Et merci pour cet ouvrage, Les logiques du corps, aux éditions.